Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je vous propose aujourd'hui de continuer à évoquer les années 80, plutôt la fin des années 80. Et peut-être au passage, aurez-vous l'impression de, d'abord de retrouver quelque chose dont on a beaucoup parlé sur le moment, et peut-être aussi de retrouver des situations qui n'ont pas beaucoup évolué, finalement, quand on réfléchit un peu en 30 ans. Alors, en 1985, il y a un épouvantable micmac politico-judiciaire autour du Rainbow Warrior. Alors, le Rainbow Warrior, c'est un bateau qui était amené par Greenpeace et qui croisait autour de la Nouvelle-Zélande pour protester contre les expériences nucléaires de la France. À l'époque, le ministre de la Défense était Charles Hernu. On a su depuis que l'opération qui avait été menée par les services secrets français s'appelait Opération Satanique. C'était assez prémonitoire. Et un feuilleton digne des plus mauvais romans d'espionnage commence à suinter à travers les informations, notamment autour des faux époux Turanche. Alors, le 1er juillet, le 10 juillet, pardon, 1985, à 23h50, une première explosion a lieu qui vise le Rainbow Warrior. L'équipage évacue, et puis un photographe qui a oublié ses appareils à bord du vaisseau retourne sur place, et c'est là qu'a lieu la deuxième explosion, et le photographe en question, Fernando Pereira, meurt. Un scandale qui a été soigneusement étouffé par la suite, dont, honnêtement, on n'a jamais su vraiment les tenants et les aboutissants, sinon que le ministre de la Défense, Charles Hernu, sera amené à démissionner. Disons qu'on lui a certainement suggéré fermement de présenter sa démission. Donc, la même année, Johnny Hallyday sort une des chansons qui sans doute restera parmi les plus connues du chanteur, Quelque chose de Tennessee, qu'il a écrit avec Michel Berger. Cette même année, un champion hors pair extraordinaire gagne son 5e Tour de France. Il s'appelle Bernard Hinault. Il a gagné le Tour en 1978, 1979, 1981, 1982. Et là, il gagne son 5e Tour. Il arrive au même niveau que des personnalités comme Anquetil ou Eddy Merckx. Or, parmi les nouvelles pour sourire, le 25 septembre, exactement 3 jours avant le mariage officiel d'une vedette de la télévision qui s'appelait Yves Mourousi, à Montmartre, a lieu un mariage dont tous les médias se sont fait l'écho. Le mariage de Thierry Leluron et de Coluche. Vous avez sans doute tous en mémoire la photographie des jeunes mariés à la sortie de la mairie de Montmartre. Et ils affirment qu'ils se sont mariés pour le meilleur et pour le rire. Malheureusement, la vie allait leur apporter un démenti cruel. Quelques mois plus tard, Le 19 juin 1986, Coluche se tue dans un accident de moto. Il a 41 ans. 5 mois plus tard, Thierry Leluron meurt à l'âge de 34 ans. On le sait, il meurt du sida. Et pour malheureusement conclure sur une note très douloureuse, en 1985, au stade du Heysel à Bruxelles, a lieu un match Juventus-Liverpool pour la Coupe d'Europe des clubs. Dans l'équipe de la Juventus joue Michel Platini. Et puis les supporters de Liverpool commencent à attaquer, à jeter des projectiles sur les supporters de l'équipe italienne. Il y aura 39 morts. Et malgré les hésitations des uns et des autres, le match a lieu quand même. Peut-être est-ce le meilleur hommage que l'on pouvait rendre aux 39 victimes de la bêtise et de la haine. On ne peut pas appeler cela autrement. Je vous propose une première pause musicale. Continuons avec, en abordant l'année 1986. Alors, l'année 1986 a eu lieu un événement dont on a malheureusement perdu un peu le souvenir, et c'est dommage. On apprend que, en Ukraine, à Tchernobyl, où se trouve une usine atomique, on apprend que le réacteur numéro 4 est tombé en panne, et que des nuages radioactifs s'en échappent. Les sauveteurs sont en danger permanent, ils essaient de récupérer des morts, ils essaient de voir un peu. La centrale, elle, ne fermera qu'en l'an 2000. Et alors là, dans le monde entier, c'est un peu la panique. Permettons à certains hommes politiques d'atteindre le comble de la bêtise, et pourtant Dieu sait s'il leur arrive de dire des bêtises. Un officiel français osera dire que la France ne risque rien puisque les nuages radioactifs se sont arrêtés au niveau de l'Alsace. Alors, même si ce sont des nuages radioactifs très disciplinés, je ne vois pas pourquoi ils auraient respecté particulièrement les frontières françaises. Je vous propose une deuxième pause musicale. Cette année 1986, Johnny Hallyday fait paraître son 35e disque qu'il a écrit avec Jean-Jacques Goldman. Parmi les titres, Je t'attends, J'oublierai ton nom, Je te promets. Le 14 janvier, un chanteur populaire meurt dans un accident sur le Paris-Dakar. Il s'appelait Daniel Balavoine. Le 26 mai, un événement dont on a peut-être oublié l'importance. Une dame qui s'appelle Nadine Beaujour aborde un hélicoptère fait évader son mari, Michel, de la prison de la santé. Alors, c'est rocambolesque, vous me direz, bien sûr. Mais quand on pense qu'en 2018, un autre détenu s'est évadé aussi par hélicoptère, on se demande si la prison de la santé ne ferait pas bien d'établir un service régulier à travers les hélicoptères. Et malheureusement, à Paris, les attentats continuent. Le 20 mars, contre la galerie Pornstar, 2 morts sur les Champs-Élysées. Le 17 septembre, chez Tati, rue de Rennes, 7 morts. Je vous propose une pause musicale. En 1987, c'est une année peut-être que moins chargée en événements. Si, pour ceux qui aiment la chanteuse et comédienne, Vanessa Paradis s'impose avec une chanson « Joe le taxi ». Passons en 1988. Et alors là, il y a en France 2 événements dont on ne saisit pas forcément tout de suite la portée. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les blockbusters, c'est-à-dire ces films qui entraînent les foules, qui ont du succès sans qu'on puisse toujours expliquer. On pensait que c'était un phénomène américain, mais pas du tout. 1988 voit la naissance de blockbusters, puisque je ne vois pas d'équivalent en français, du cinéma français. Et il y a d'abord L'ours de Georges Lacanau, d'après un roman de James Oliver Curwood. Alors, évidemment, le tournage a été très long. Il a fallu 8 mois. Il faut penser que la star du film, Bart, c'est le nom de l'ours, fait quand même 750 kilos. Lorsqu'il est debout sur sa patte arrière, il fait 3 mètres 10 de haut. Il n'est pas forcément manipulable comme n'importe quel autre comédien. Et à ses côtés, il y a l'ourson, Yuk. Vous savez, cet ourson orphelin que Bart prend sous sa protection. Et alors là, ça a été un succès. En France, on compte 9 millions de spectateurs. 8 millions pour les États-Unis, ce qui est assez inhabituel pour les films français aux États-Unis. Et puis, autre blockbuster, peut-être plus inattendu, Le Grand Bleu de Luc Besson. Alors, Le Grand Bleu de Luc Besson a été présenté au Festival de Cannes. Il a été sifflé par la critique en disant que c'était nul, etc., etc. Bon. Et puis, je trouve que c'est très bien d'ailleurs. Et puis, le public, ben, il n'a pas été d'accord. Et puis, plus de 9 millions de personnes ont vu Le Grand Bleu. Et il paraît que lorsqu'on le reprend dans les salles, ça attire toujours autant de monde. Alors, peut-être serait-ce l'occasion de rappeler aux gens qui font profession de critique qu'il ferait bien de parfois d'être un peu modeste sur leur choix, de donner leur avis, certes, mais sans être trop intransigeant, parce que finalement, le cinéma, c'est surtout le public qui le fait, en allant voir ou en allant pas voir les films. Je vous propose une pause musicale. Et nous voici à présent à la fin de notre parcours, mais cette dernière étape est peut-être la plus importante de toute cette période. Parce que 1989 a été l'année de tous les bouleversements, immédiats ou en gestation, si j'ose dire. Et il y a d'abord ce qu'on a appelé le printemps de Pékin. Vous avez peut-être en mémoire une photo qui a fait le tour du monde le 5 juin. On voit sur la place Tiananmen de Pékin un homme seul, en chemise, face à une colonne de chars. Alors, disons tout de suite, on n'a jamais su qui était cet homme, on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Mais cette photo phare a tellement fait la une des hebdomadaires et des mensuels et autres que sans doute vous l'avez gardée en mémoire. La veille, des manifestants étaient allés sur la place Tiananmen pour réclamer davantage de liberté individuelle. Et l'armée avait ouvert le feu. Officiellement, il y a eu 500 morts. Est-ce la vérité? Je n'en suis pas convaincu, mais après tout. Est-ce tellement important le nombre exact de morts du moment qu'il y a eu des morts? Et puis, il y a aussi en 1989 un événement dont peut-être tous les décideurs du monde n'ont pas pris clairement la mesure. Le 10 novembre, c'est la chute du mur de Berlin. Et peut-être le début de la chute du système communiste soviétique, disons. Et encore une image qui peut-être est restée dans la mémoire. Le lendemain, à Chang Point, à l'endroit où était installé le passage entre les deux Allemagnes, un grand violoncelliste, Stislav Rostropovich, est venu avec son violoncelle et il a joué les suites pour violoncelle de Bach. Alors, ça n'avait rien à voir avec une opération publicitaire. Rostropovich n'avait pas besoin de ça comme publicité. Il a simplement déclaré « Je suis venu pour remercier Dieu d'avoir accompli un tel miracle. » Alors, peut-être que les gens au pouvoir à l'époque n'ont pas senti toute l'importance de l'événement. Alors, dans la lignée, dans la continuation, oserais-je dire, de ce qui s'est passé à Berlin, en Roumanie, le 22 décembre, Ceaușescu est renversé. C'était le représentant typique du pouvoir communiste, même si à un moment donné on a dit qu'il était libéral, en fait on s'est vite rendu compte que c'était une dictature à peine déguisée sous des paroles vides. Et Ceaușescu et son épouse Elena sont jugés le 25 décembre et fusillés immédiatement. Alors les autorités prendront soin de publier la photo des deux corps, le corps d'Elena et celui de Nicolae, pour bien montrer que les dictateurs étaient bien morts. Et là, malheureusement, une histoire complètement rocambolesque, à laquelle il est difficile de comprendre quelque chose. Les gens qui avaient pris le pouvoir en Roumanie avaient accusé entre autres Ceaușescu d'avoir fait tuer plus de 4600 civils non loin de Bucarest à Timișoara. Et puis malheureusement, il y a des journalistes peut-être trop curieux qui ont enquêter un peu pour savoir quelle c'était cette histoire de génocide à Timișoara, génocide perpétré par Nicolae Ceaușescu. Et en fait, on s'est rendu compte que ces corps, parce qu'on avait vu les photos des cadavres, etc., avaient été exhumés du cimetière des pauvres de Timișoara. Donc le génocide ne tenait pas la route. Alors, si maintenant on ne peut plus même croire à la réalité des génocides, avouez qu'il y a de quoi, parfois, douter des informations officielles communiquées par les pouvoirs en place. Oh, Il ne faut pas oublier que 1989, c'est aussi le 200e anniversaire de la Révolution française. Alors le 14 juillet 1989, pour ce 200e anniversaire, les gouvernements, enfin les gens qui dirigent la France, ont, si j'ose dire, mis les petits plats dans les grands, avec une scénographie réglée au millimètre près par le personnage à la mode, Jean-Paul Goude. Et puis, une chose que je n'ai jamais très bien comprise, le clou de cette célébration, c'était l'immense cantatrice Jessie Norman chantant la Marseillaise. Alors certes, Jessie Norman est une superbe cantatrice, elle est remarquable, extraordinaire, enfin tous les superlatifs peuvent lui convenir, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que à quoi bon aller chercher aux États-Unis une cantatrice célèbre pour chanter la Marseillaise. On ne va quand même pas me dire qu'en France, il était impossible de trouver une cantatrice qui chante la Marseillaise au moins aussi bien, sinon peut-être avec plus d'émotion que ne l'a fait Jessie Norman. Alors, oh, elle a rempli son contrat. Mais quelque part, ça m'a laissé un arrière-goût un peu amer. Alors, pour conclure par un hommage, je me contenterai de rappeler quelques grands disparus de cette deuxième partie des années 80. Il y a eu Georges Brassens, Lino Ventura, Simone Signoret, Louis de Funès, Bernard Blier, et un comédien dont on parle moins malheureusement actuellement, mais qui a marqué son époque et dont le nom restera pour quelques films, Patrick Devers. J'espère que cette évocation vous a rappelé quelques souvenirs. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.
RGC.
Thank you.